Quelqu'un se souvient-il ici de quel personnage éminent notre ami Paul Harrison nous a parlé la semaine dernière? Oui. Boaz. Et de quelle fonction, de quel rôle en particulier a-t-il été question? Le Rédempteur, Boaz, le Rédempteur. Eh bien, ce matin, après avoir abordé il y a quelques semaines le ministère de médiation de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais revenir sur sa qualité de Rédempteur. Jésus-Christ, Rédempteur. Alors, les textes touchant de près ou de loin à l'œuvre rédemptrice de Christ sont étonnamment rares. Plus surprenant encore, aucun ne désigne expressément Jésus comme le Rédempteur. Sous l'Ancienne Alliance, ce titre est à plusieurs reprises reconnu au Dieu d'Israël, qui, nous dit-on, a racheté son peuple pour le faire sien et lui rendre la liberté. Sous la nouvelle économie, un seul est appelé rédempteur, Moïse, par Étienne, qui, dans son discours devant le Sanhédrin, dit de lui, acte 7, verset 35, « C'est lui, Moïse, que Dieu a envoyé comme chef et, littéralement, rédempteur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. » Cela dit, il ne fait aucun doute que l'œuvre accomplie par Christ sur cette terre, en général et à la croix en particulier, est régulièrement assimilée à une œuvre de rédemption. Témoin, parmi bien d'autres possibles, ces quatre textes de Paul, d'abord, Romains 3, versets 23 et 24, je cite, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et puis dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, verset 30, nous lisons « C'est grâce à lui, Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été fait pour nous sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption. » Lettre aux Éphésiens, cette fois, chapitre 1er, je cite le début du verset 7, « En lui, Christ, nous avons la rédemption par son sang. » Et puis, dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1er, là encore, les versets 13 à 14, je cite, « Dieu nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Son Fils bien-aimé, en qui nous avons quoi? La rédemption, le pardon des péchés. Quatre textes auxquels nous pouvons ajouter celui-ci, extrait de la lettre aux Hébreux, chapitre 9, le verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc ou de taurillon, mais avec son propre sang, et c'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle. D'où notre devoir de reconnaître au Fils également, et pas seulement au Père, le titre insigne de Rédempteur. Le moment est donc venu pour nous de nous interroger sur la signification du mot Rédempteur, une manière de nous rafraîchir la mémoire, ce sujet ayant été rapidement évoqué il y a 8 jours. Qu'est-ce qu'un Rédempteur? Seule une certaine connaissance des civilisations anciennes nous permettra de répondre, car le terme n'est plus utilisé de nos jours que par les théologiens, et à propos de Christ précisément. Alors, dans l'Antiquité, au contraire, et chez les Hébreux tout spécialement, il fait partie du vocabulaire le plus quotidien, et signifie, le plus souvent, celui qui verse une certaine somme, souvent appelée rançon, en vue du rachat. Alors, du rachat de quoi? D'un esclave ou d'un prisonnier de guerre, ou encore d'un condamné à mort. Le Rédempteur était donc avant tout un acquéreur, Une personne qui, moyennant un prix convenu, s'appropriait qui un homme, qui une femme, dont le destin jusque-là, funeste le plus souvent, était entre les mains d'un autre. Contrairement à ce que nous pourrions croire, ce rachat n'entraînait pas forcément une amélioration sensible du statut ou même des conditions d'existence de l'individu dont il était l'objet. Mais lorsque le Rédempteur s'appelait le Seigneur, le Dieu d'Israël, alors l'issue du rachat était invariablement positive. C'était l'affranchissement total. Le peuple, car c'était d'un peuple qu'il s'agissait, le peuple que l'Éternel s'appropriait passait d'un coup de la condition d'esclave qui était la sienne à celle nouvelle d'homme libre, si je puis m'exprimer ainsi. Des exemples, eh bien vous prenez la sortie d'Égypte ou le retour de Babylone, mais aussi la rémission de certaines fautes d'Israël. Chacun de ces événements mémorables a été vécu par le peuple comme une véritable délivrance. La libération que lui offrait soudain le Dieu rédempteur, celui qui l'avait racheté. Dans le langage biblique, donc, le titre de rédempteur, lorsqu'il désigne l'être divin, signifie à la fois acquéreur et libérateur, ou sauveur. De même, le mot rédemption, notamment lorsqu'il est utilisé pour qualifier l'œuvre de Christ, signifie en même temps rachat et délivrance. Christ rédempteur est en réalité celui qui, par le paiement d'un certain prix, s'approprie le peuple de son choix et l'affranchit. Voilà pour la signification du mot rédempteur. Considérons maintenant avec attention l'œuvre particulière accomplie par Christ en cette qualité de rédempteur, précisément, que nous venons de lui reconnaître. Dans notre tentative de mettre en lumière les divers aspects de cette œuvre grandiose, de rachat et de délivrance d'un peuple pour Dieu, nous procéderons en deux temps. Premier temps, ce matin, avec l'examen de trois thèmes, la justification, le prometteur et le prix de cette rédemption. Et puis, Dieu voulant, deuxième temps, un autre jour, avec l'étude de ces deux autres thèmes, les cibles et surtout les conséquences de cette rédemption. Pour aujourd'hui donc, ce premier thème de réflexion, la justification de cette rédemption. Pourquoi fallait-il, pourquoi une telle entreprise? Pour deux raisons essentielles, me semble-t-il, relatives l'une à la condition de l'homme, notre condition, et l'autre à la nature même de Dieu. La condition de l'homme d'abord. L'Écriture sur ce point est sans ambiguïté. Tout homme qui vient dans le monde se trouve placé d'entrée dans la situation peu enviable, non seulement de l'esclave, mais encore du condamné à mort. Car depuis que par Adam le péché, c'est-à-dire le refus de la dépendance et la désobéissance, depuis que le péché est entré dans le monde, tous les hommes, nous dit l'Écriture, sont asservis, c'est le mot qui est utilisé, au mal. Et de ce fait, se courbent sous la crainte de la mort, son inévitable salaire. Tous ont péché, écrit Paul aux chrétiens de Rome, et sont aussitôt devenus esclaves du péché et donc de la mort. L'homme, on le voit, ne naît pas libre, comme on l'entend parfois. Son tout premier cri est déjà celui d'un esclave, conçu dans le péché, enfanté dans la faute. Le psalmiste l'a dit à plusieurs reprises, il est dès le début prisonnier du mal. Le bien restera donc toujours hors de sa portée. D'où ce long gémissement de l'apôtre Paul, « Je suis un homme si faible ». Vendu comme un esclave au péché. Du coup, je ne comprends pas ce que je fais. Car je ne fais pas ce que je voudrais faire. Je fais ce que je déteste. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort. Nous cherchions à justifier l'œuvre rédemptrice réalisée par Christ. Voici donc une première raison, l'asservissement de l'homme, notre asservissement au péché, qui nous destine à coup sûr à la mort. Mais il en est une seconde, relative, elle, à la nature de Dieu. De ce Dieu que révèle si brillamment la Bible et que Christ exprime si parfaitement, nous ne dirons jamais assez qu'il est amour. Et s'il est dans ce merveilleux univers que nous devons tout entier à sa seule parole créatrice, un objet qu'il a définitivement choisi pour être la cible première et toujours privilégiée de son immense bonté, c'est bien l'homme. Et ce misérable, cet insensé, qu'il avait haï au lieu de l'aimer, maudit même au lieu de le bénir, et calomnié au lieu de le glorifier, il a continué de l'aimer. De l'aimer de cet amour qui, parce qu'il était vrai, ne pouvait faire autrement que de chercher à surmonter le mal par le bien. Devant ce captif pitoyable, gémissant et désespérant à juste titre sous l'esclavage, Dieu n'a donc pas dit « il n'a que ce qu'il mérite après tout, abandonnons-le à son juste sort », mais il a dit « ne tardons plus, allons à sa rencontre, rachetons-le avant qu'il périsse et rendons-le à sa liberté perdue ». Et à sa rencontre, c'est le message de l'Évangile, il est allé en Jésus-Christ, nous l'avons rappelé il y a quelques instants, en Jésus-Christ, lequel est paru pour réaliser pleinement le merveilleux projet divin. Alors s'est accomplie la stupéfiante promesse confiée jadis à Ésaïe, le porte-parole du Seigneur, je cite, « Un bref instant, je t'avais abandonné ». Dans un débordement d'irritation, j'avais caché mon visage, un instant, loin de toi. Mais avec une amitié sans fin, je te manifeste aujourd'hui ma tendresse. Dis celui qui te rachète, le Seigneur. Quel texte. Avec une amitié sans fin, je te manifeste aujourd'hui. Ma tendresse. Derrière l'œuvre rédemptrice de Christ, donc deux réalités qui la commandaient. D'un côté, l'effroyable asservissement de l'homme, et de l'autre, l'infinie compassion de Dieu. Mais nous touchons là déjà à notre deuxième thème de réflexion, le promoteur de cette rédemption, son promoteur. La question ici est celle-ci, qui est à l'origine de cette œuvre de rédemption ? Une seule bonne réponse, Dieu. S'adressant à Moïse, le Seigneur disait déjà, quelques 12 siècles avant la venue du Christ rédempteur, je cite, « J'ai vu la misère de mon peuple et je l'ai entendu crier. Oui, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer. » Et pour le faire monter, car la promesse va au-delà, vers un pays ruisselant de lait et de miel. À l'origine de la rédemption, donc, Dieu. Et pourquoi lui ? D'abord parce que seul il pouvait racheter. Seul il pouvait payer le prix exorbitant. Nous aurons bientôt l'occasion de le vérifier, d'une telle délivrance. Aucun homme n'était en mesure de verser cette rançon qui lui eut pourtant permis de retrouver la liberté. Se racheter lui-même, et a fortiori racheter ses semblables, était hors de sa portée. Dieu seul pouvait payer le prix de sa liberté. Encore fallait-il qu'il le voulût. Et c'est bien là l'extraordinaire dont témoigne l'Écriture. Il voulait. Oui, ce rachat dont il était seul à posséder les moyens, Dieu le voulait. Jamais, encore une fois, il ne s'était résolu à l'idée que celui qu'il avait lui-même créé pour le voir s'épanouir pleinement dans la liberté, jamais il ne s'était résolu à l'idée de le voir s'étioler, se flétrir, dépérir dans la servitude. Par ailleurs, quelle gloire pouvait-il espérer tirer désormais d'un esclave déformé par le mal et courbé, j'y reviens, par l'angoisse de la mort? Quelle gloire! Avant même que l'homme ne se prît à aspirer enfin à sa propre délivrance, Dieu donc l'avait programmé pour lui. Il n'était pas seulement capable, il était aussi décidé à intervenir dans l'histoire humaine pour qu'au gémissement insupportable des captifs succède un jour le cantique nouveau des rachetés. Des rachetés. À l'origine donc de notre rédemption, Dieu, dont la Bible nous dit qu'il est venu au-devant de nous en rédempteur, à la fois parce qu'il nous savait incapables absolument de nous libérer nous-mêmes et parce qu'il ne pouvait souffrir de ne pas nous voir libres. Venons-en maintenant à notre troisième et pour ce matin dernier thème de réflexion, le prix de cette rédemption, le prix. C'est de Jésus lui-même que nous tenons le terme de rançon pour désigner le prix que d'un commun accord avec le Père, il a accepté de payer pour notre libération. Le Fils de l'homme, déclara-t-il un jour à ses disciples qui se disputaient déjà les portefeuilles ministériels du gouvernement nouveau, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Et on se souvient alors de cette parole de l'apôtre Paul, reprenant à peu près les mêmes termes. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le choix de ce terme « rançon » pour désigner le prix de notre rachat est particulièrement intéressant, parce qu'il indique d'entrée que notre affranchissement était comme subordonné à la satisfaction d'une certaine condition précise. En réalité, le Fils qui, de concert avec le Père, voulait notre liberté, n'avait pas le choix quant aux moyens de parvenir à ses fins. La voie du rapt ou de l'enlèvement, notamment, lui était coupée. Une rançon avait été fixée par un autre que lui et il se devait d'en verser tout le montant s'il tenait vraiment à ce que nous soyons délivrés. Alors, trois questions se posent maintenant. Première question, par qui cette rançon a-t-elle été fixée? Par qui? Par celui qui nous tenait sous sa coupe, le prince de ce monde, comme il est parfois appelé? Satan? D'aucuns, pressant à l'excès la métaphore, l'ont pensé. Mais c'était de leur part pousser très loin l'erreur. Car de l'ensemble du témoignage biblique, il ressort très nettement que c'est Dieu et lui seul qui a fixé le prix de notre liberté. Comment d'ailleurs a-t-il pu en être autrement? Quel autre que lui, en effet, était à même d'estimer justement ce qu'exigeait sa parfaite justice en échange de notre remise en liberté? Quel autre que lui? Deuxième question. À combien le prix de notre liberté a-t-il été évalué ? C'est encore Jésus qui, le premier, évoque le montant de cette rançon, sa propre vie. Le but de sa venue sur terre, donner sa vie, dit-il, en rançon pour une multitude. Et puis viennent les apôtres, Paul, surtout qui, s'adressant à l'église d'Éphèse, déclare, chapitre 1, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang. » Par son sang. Parole que vient appuyer ce petit fragment d'une lettre qu'il destine à Tite, son ami, Tite 2, verset 14. « Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter. Il s'est donné lui-même. » Et nous pourrions multiplier les citations de Paul, mais d'autres apôtres également, qui confirment « Notre rachat n'exigeait rien de moins que le sacrifice d'une vie parfaite, celle du Fils, Fils de Dieu, et de l'homme à la fois. » Seule une telle offrande était à même de satisfaire l'absolue justice de Dieu. Seule une telle rançon avait toutes les chances, elle, d'être acceptée en échange de notre liberté. Mais au fait, pourquoi une telle exigence ? On cherchera vainement la réponse dans les spéculations de certains qui estiment que le rachat d'une faute absolue exigeait le sacrifice d'un être infini, ou qui soutiennent que l'homme avait besoin d'une preuve de l'amour illimité de Dieu. Le fait est que nulle part le Nouveau Testament n'envisage la question. Aucune réponse ne nous est donc fournie. Ni Jésus, ni les disciples ne cherchent à lever le voile sur les raisons profondes qui ont fait que Dieu s'est voulu, et je dis bien que Dieu s'est voulu lui-même contraint. Dieu s'est voulu lui-même contraint de payer aussi cher la réalisation de son rêve, savoir notre liberté. Sans doute est-ce parce que cela, finalement, ne regarde que lui. Tout ce que nous pouvons et devons dire est que, comme toutes ces raisons, celle-là aussi était sainte, juste et bonne. Le prix, donc, de notre délivrance, rien de moins que la vie même de son Fils. C'est sans argent que vous avez été rachetés, avait annoncé le Seigneur. Sans argent, oui, mais pas gratuitement. Loin de là. Certes, écrit Pierre, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés. Mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. L'homme pouvait-il seulement imaginer que le prix de son affranchissement serait à ce point élevé? Le Père et le Fils, eux, le savaient. Ni l'un ni l'autre n'a pourtant hésité. Autant marqué, le Père a donné son Fils et le Fils sa vie. Et voici que déjà nous répondons à notre troisième et dernière question. Quand notre rançon a-t-elle été payée ? La réponse, à la croix, bien sûr. En ce jour de la Pâque juive de l'an 27 environ, où, tandis que Ponce Pilate était le gouverneur de Judée, Jésus a souffert, il a été crucifié. Il est mort, il a été enseveli pour nous. Afin que par son sacrifice soient brisées à jamais toutes nos chaînes, ces fers qui jusque-là nous retenaient captifs du péché et donc, j'y reviens, de la mort. Oui, c'est bien à la croix qu'a été payé en entier le prix de notre liberté. Lorsque le Père a finalement livré son Fils, son unique, et que le Fils s'est donné en rançon pour nous. Alors la parfaite justice de Dieu fut satisfaite, nous dit l'Écriture. En Christ, en effet, venait d'être frappé tous les pécheurs. Vous et moi compris, qui par la foi en lui, un jour, était devenu ou un jour deviendrait ses disciples. Aussi, trois jours après, purent-ils, avec Christ, renaître à la vie. Leur faute ayant été totalement expiée. Ni le péché, ni la mort ne pouvaient plus les retenir dans les liens. Tel est, mes amis, le témoignage qui fut rendu au temps fixé et pour lequel nous avons été établis avec les premiers disciples, je paraphrase l'apôtre Paul, héros et apôtres, et nous disons vrai, nous ne mentons pas, en acceptant la mort du maudit sur cet effroyable gibet où pendant toute une journée, il fut exposé non seulement à la haine des hommes, mais encore et surtout à la colère de son propre Père, Christ a payé le prix, tout le prix de notre libération. Et sa résurrection, moins de trois jours après, en témoigne à jamais, son offrande a été acceptée. Qui que vous soyez, vous pouvez donc aujourd'hui faire l'expérience de la liberté, la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Pour cela, il suffit que vous étant tournés vers Jésus, comme un certain nombre d'entre nous l'ont déjà fait, vous deveniez son disciple. Alors vous connaîtrez à votre tour cette fabuleuse victoire qu'il a remportée pour nous à la croix et dans les heures qui ont suivi. Libre, enfin, à l'égard du péché. Libre, enfin, à l'égard de la mort, son inévitable salaire. Vous ferez vos premiers pas dans cette vie nouvelle pour laquelle, dès le commencement, Dieu vous avait vous aussi créé. Et vous goûterez bientôt combien est bonne cette vie que le Seigneur a placé sous le signe de l'abondance et qui déjà possède comme une saveur d'éternité. Alors, sur vos lèvres, plus de gémissements, mais un chant, celui toujours nouveau du racheté, en l'honneur de Christ, notre Rédempteur. Tu es digne, ô Christ, Rédempteur, qui paya de ta vie ma liberté, tu es digne de recevoir à la fois puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Pourquoi ? Parce que tu as été immolé et que tu m'as racheté pour Dieu par ton sang. Et tout autour de vous, une multitude d'anciens co-détenus, ce que nous sommes, ce que je suis, une multitude d'anciens co-détenus, proclamant d'une voix forte, nous dit Jean, « Il est digne, en effet, l'agneau immolé. » Qu'à lui donc soit la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir pour les siècles des siècles. Et je me dis, quelle compassion de la part de notre Père. Quel amour de la part de Christ qui s'offrit un jour pour nous racheter et faire de nous un peuple nouveau, sur lequel ni le péché, ni la mort n'auraient plus la moindre prise. Puisse le souvenir de ce jour, unique dans toute l'histoire de l'univers, où le Père, dans le Fils, se présenta au monde en Rédempteur, être bientôt pour tous le motif d'une jubilation et d'une paix toujours nouvelle. notre raison aussi de l'aimer, lui, d'un amour chaque jour plus profond. Amen.